Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Le doute n'est désormais plus de mise. L'épidémie repart. La Mayenne, comme la Guyane et Mayotte, est placée désormais en vulnérabilité élevée et une grande campagne de tests est lancée dans ce département. La Gironde inquiète également. À Marseille, le nombre de nouveaux cas double tous les deux jours selon les médecins. Idem dans les hôpitaux parisiens où des signaux faibles de reprise de l'épidémie sont désormais avérés. Alors le gouvernement accélère. Cet après-midi, le ministre de la Santé a invité les Français à porter dès à présent un masque dans tous les lieux clos. Ce matin, c'était le Premier ministre qui annonçait une accélération du calendrier sur le port du masque obligatoire dès le début de semaine. Alors, y a-t-il lieu de s'inquiéter de ce rebond de l'épidémie? La situation est-elle sous contrôle? Les Français vont-ils accepter ces nouvelles règles? L'épidémie accélère. Le masque s'impose, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Anne-Claude Crémieux, vous êtes professeure en maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Je rappelle que vous êtes membre de l'Académie de médecine et vous avez publié « Gouverner l'imprévisible, pandémie grippale, SRAS, crise sanitaire » aux éditions Lavoisier. Martin Blachier, vous êtes médecin, épidémiologiste, spécialiste de santé publique. Vous dirigez la société Public Health Expertise. Jean-Paul Hamon, vous êtes médecin généraliste, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Enfin, Soazic Kemener, vous êtes rédactrice en chef du service politique de l'hebdomadaire Marianne. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je vais commencer avec vous, Soazic Kemener. On a l'impression qu'au sommet de l'État, il y a eu un brin de fébrilité ces dernières heures. Le président avait parlé du 1er août pour passer au port du masque obligatoire. Aujourd'hui, je le disais à l'instant, le ministre de la Santé dit « commencez dès à présent ».
Oui, effectivement, il y a eu ce moment étonnant où le président de la République donne cette date du 1er août, par exemple, et puis il voit les réactions. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté la pression de l'opinion, parce que l'opinion ne comprend pas pourquoi c'est seulement le 1er août, à partir du 1er août, qu'on devrait porter un masque dans les lieux clos, alors qu'il voit bien que tous les signaux que vous indiquiez à l'instant sont en train, non pas de passer au rouge, mais peut-être un petit orange, et donc ils sont en train de se demander ce qui se passe. Et puis de l'autre côté, il y a la pression des médecins qui ont signé une tribune. Vous êtes
c'est le cas d'un peu crémieux.
Des signataires samedi dans le Parisien pour appeler justement à un port du masque. Et puis il y a le Conseil d'État, la saisine du Conseil d'État des médecins, des victimes du Covid, des médecins qui demandent au Conseil d'État de statuer sur ce port du masque. Donc tout s'accélère et ça s'accélère. Et on le voit d'ailleurs ce matin, on a une interview du Parisien, du Premier ministre Jean Castex, et dans cette interview, il dit bon, le 1er août, mais si ça devait s'accélérer, bon, j'accélérerais les choses. Et puis au Sénat, ce matin, discours de politique générale du Premier ministre, et là il explique qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, mais que quand même ça va être immédiat et que c'est pour la semaine prochaine. Donc il y a un message un peu contradictoire qui effectivement illustre très bien cette fébrilité dont vous parliez au sommet de l'État. C'est sûr que Jean Castex, ce qui est étonnant, c'est qu'il était vierge de ce côté-là. C'est-à-dire que lui n'a pas parlé aux Français de masques. C'était l'équipe précédente, c'était Édouard Philippe, c'était la porte-parole du gouvernement. Et c'est étonnant qu'il commence, que son arrivée à Matignon commence justement par cette fébrilité sur un sujet qu'il connaît très très bien, puisqu'il a été le monsieur déconfinement du gouvernement. Et on voit que cette histoire de masques, politiquement, continue à empoisonner l'exécutif qui n'arrive toujours pas à trouver une information claire à ce sujet.
Si ça accélère au sommet de l'État, et on va y revenir sur les conséquences que ça peut avoir, le port du masque obligatoire dans les lieux clos, si ça accélère au sommet de l'État, Claude Crémieux, c'est parce que ça accélère sur le terrain en termes d'épidémie. On peut parler d'une reprise de l'épidémie ?
Oui, je crois que c'est effectivement la réalité, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une accélération de la circulation du virus. Et ce qui est étonnant, c'est que, quelque part, on ait renversé la séquence. Il y a 12 jours, on nous disait « attention, vous relâchez trop », mais on ne nous disait pas pourquoi. Tout ça, ça a duré 6 jours. Et puis ensuite, on nous a dit peut-être le port du masque, mais c'est pas urgent. Et là encore, on n'a pas du tout lié l'acceptation, enfin la nécessité du port du masque avec l'accélération de l'épidémie. Et puis c'était pas urgent, faut pas affoler les Français, la situation est sous contrôle. Et tout à coup, la réalité qui effectivement domine, il faut aller vite. Il faut aller vite. Et donc, cette séquence nous rappelle effectivement ce qui s'est passé en mars, c'est-à-dire on a l'impression que le gouvernement est absolument terrorisé à l'idée d'inquiéter les Français. Et cette tendance qu'on trouve à toutes les crises, c'est-à-dire surtout l'essentiel, c'est de ne pas inquiéter. Et comme dans toutes les crises, un facteur d'inertie, de retard et brutalement de changement de position.
Un point sur l'épidémie avec vous, Martin Blacher. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste. Quand on regarde les chiffres, alors 97 clusters en cours d'investigation, plus 8 en 24 heures. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur le taux d'incidence? Alors, on essaie de se familiariser avec ces chiffres-là. Vous les connaissez par cœur, vous allez nous expliquer. Mais pour la Mayenne, le taux d'incidence qui passe à 52,7 cas sur 100 000.
Absolument,
ça repart.
Absolument. Et puis, il y a aussi ce chiffre des appels à SOS médecins pour Covid-19. Hein, en un mois, on a x5. Donc, il n'y a pas tous les indicateurs qui montent de la même manière, ce qui prouve qu'il y a des indicateurs qui sont probablement mieux que d'autres. Ce qui est sûr, c'est que dans les conditions qui sont celles dans lesquelles on est aujourd'hui, il y a une accélération. Et donc, en fait, oui, il faut s'inquiéter. Il faut s'inquiéter à partir du moment où on sait qu'à partir du moment où ça s'accélère, bah, ça va être un pic. Donc, voilà, on est dans les conditions de fabrication d'un nouveau pic aujourd'hui si on ne fait rien. Après, est-ce que les nouvelles mesures vont être en mesure de le décaler? Comment ça va le décaler? Est-ce que ça va l'étaler dans le temps? Ça, on n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, c'est que si on reste comme on est aujourd'hui, on va voir la même chose que ce qui s'est produit en mars.
Quels sont les indicateurs qui sont, à votre avis, le gouvernement le prend le plus au sérieux? Est-ce que c'est le cluster, est-ce que c'est encore un cluster d'ailleurs, de la Mayenne? Est-ce que c'est parce que c'est sur l'ensemble du territoire? On a parlé de la Gironde, on a parlé aussi de médecins marseillais qui alertent en disant on a deux fois plus de cas dans les hôpitaux marseillais. Est-ce que c'est ce qui se passe dans les hôpitaux parisiens, vous, en tant qu'épidémiologiste?
C'est les tribunes qui sont publiées dans le Parisien, je pense. Non, mais il faut être honnête, je pense que c'est ça qui a fait bouger les choses. C'est simplement un principe de précaution parce qu'ils se rendent compte que s'ils ne le font pas et qu'il se passe quoi que ce soit, bah, ils vont avoir un problème. Et je pense que c'est pareil sur le 1er août. C'est-à-dire que s'ils font ça le 1er août, que ça s'accélère et qu'ensuite on se dit ah,
on commence à faire des calculs,
à faire des modèles en disant si on avait mis les masques 3 semaines plus tôt, comme les médecins l'avaient demandé, on aurait évité tant de décès, c'est indéfendable. Donc ils sont obligés de se dépêcher. Donc c'est à mon avis juste une séquence de prise de position.
Des signaux faibles de reprise de l'épidémie dans les hôpitaux parisiens. Quand je vous demande quels sont les indicateurs que vous regardez, vous, quand vous faites vos modélisations, est-ce que c'est ce fameux taux d'incidence? Est-ce que c'est le R qui est en train de grimper un peu partout? Est-ce qu'on est encore dans une situation où il y a quelques zones qui sont à risque ou, dans ce que vous regardez quand on fait deux pas en arrière avec les chiffres de Santé publique France, est-ce que ça frémit un peu partout?
Moi, je vais être honnête, je regarde les chiffres de Santé publique France avec recul.
Pourquoi ?
Parce que je pense qu'on voit une partie de la vérité. Par exemple, on parle tout le temps de ce taux de positivité des tests. Moi, je dis d'accord, mais ça dépend de qui fait les tests. C'est-à-dire que la manière dont vous faites les tests et la population que vous testez, c'est ça qui va peut-être aussi déterminer le taux de positivité. Moi, ce que je pense, c'est que plus on avance, plus les gens qui se font tester sont des gens qui ont une faible probabilité d'être infectés. Ce que je pense, c'est que c'est comme en Californie, comme dans le sud des États-Unis, les gens qui s'infectent sont des gens qui ne vont pas se faire tester. C'est-à-dire que les gens qui s'exposent, ce n'est pas les gens qui sont les plus prompts à aller se faire tester. Donc il y a beaucoup de gens qui se font tester, certes, beaucoup de gens qui ont probablement une faible probabilité d'être positifs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une circulation au sein des gens qui, eux, ne vont pas se faire tester.
Pourquoi ils ne se font pas tester, ceux-là ?
Mais ils ne se font pas tester parce qu'ils n'ont pas une perception du risque qui est important. Les gens qui s'exposent, c'est les gens qui n'ont pas peur. Donc c'est-à-dire que quand ils ont le nez qui coule, ils ne vont pas se faire tester. Il y a une enquête qui a été faite en ligne. 17% des gens qui ont des symptômes vont se faire tester. Donc ça prouve bien qu'on ne capte pas. Ça prouve bien si ça se passe en Mayenne, mais ça se passe probablement ailleurs. Pourquoi ça ne se passerait qu'en Mayenne? Donc c'est tout le sud de la France, sans doute l'ouest et même d'autres zones.
C'est à Mulhouse, c'est-à-dire qu'il y a à un moment donné un cluster pas maîtrisé
qui
fait que ça repart à un
endroit
plutôt qu'un autre.
Il y a un espèce de phénomène stochastique qui fait que ça peut prendre à un moment, mais quelques semaines après, ça va prendre ailleurs. Je veux dire, c'est un état de l'art qui est aujourd'hui qui fait qu'on a la capacité, on est en situation aujourd'hui d'avoir des cinétiques exponentielles qui se passent dans plein d'endroits en France, là où on a un niveau d'immunité collective qui est très faible.
Le fait que ça se passe en Mayenne, en Gironde, ce n'est pas particulièrement des endroits qui ont été très soumis à la première vague.
Les vagues qui vont venir vont être dans des endroits où on n'a pas eu de vagues jusqu'à aujourd'hui. C'est pareil quand l'étude de l'Institut Pasteur fait un calcul et dit il y a 5,7 ou 4,4% de la France qui est immunisée. Oui, mais ça ne veut rien dire. Il y a des zones où il y a 20-25%, et là, effectivement, l'immunité joue un rôle. Il y a plein de zones où le virus n'est jamais passé. Et là, c'est très à risque. Et même avec des bonnes protections, quand vous simulez, vous avez quand même un bon risque que ça parte.
Jean-Paul Hamon, dans les cabinets des médecins, est-ce qu'on constate cette reprise de l'épidémie ?
Non, on constate beaucoup de demandes de tests, justement, parce que les gens vont voyager ou ils vont aller retrouver leur famille. Donc, ils demandent, ils veulent savoir s'ils ont été en contact avec le virus. Et puis, il y a des pays comme le Maroc qui demandent un test de moins de 3 jours, un test PCR de moins de 3 jours pour y arriver. La Tunisie l'a exigé jusqu'au 1er juillet et maintenant ne l'exige plus. Donc, les gens ne savent pas, ils continuent de demander des tests. Mais par exemple, ce qui s'est passé en Mayenne est significatif sur l'inertie du gouvernement. Le 10 juillet, quand Luc Duquesnel, qui est le médecin de Mayenne, qui a monté ces 8 centres Covid qui ont été fermés.
Quoi un centre Covid ?
Les centres Covid, c'est des médecins et des infirmières qui testent les personnes qui présentent des symptômes, de façon à leur éviter de passer dans les cabinets médicaux et risquer de contaminer les autres. Hein, il y avait 8 centres. L'ARS, avec sa grande clairvoyance, a décidé le 25 juin de les fermer le 1er juillet.
Bon. Pourquoi ? Donc,
parce que ça allait coûter des sous, alors que Luc Duquesnel voulait au moins garder ça opérationnel jusqu'en septembre-octobre pour voir si ça allait redémarrer ou pas. Donc ça a été fermé, il a fermé, donc après, lui, il n'a pas réorganisé tout ça. Hein. Donc là, ça a commencé à bouger à ce moment-là. Ils étaient, la semaine dernière, le 10, ils étaient 280 à être contaminés. J'ai mis un SMS à Olivier Véran, à Katia Julienne de la Direction Générale d'Organisation Sanitaire, de la DGOS, à Nicolas Revel, et je leur ai dit, faites gaffe avec la Mayenne, ça va redémarrer.
Ouais, et ça redémarre.
Et donc, ça n'a pas bougé. Donc, les 8 centres étaient fermés. Les médecins généralistes, le 10 juillet, quand ils avaient quelqu'un de symptomatique, ils attendaient 10 jours pour obtenir un rendez-vous pour avoir un test.
Donc là, ils contaminent.
Donc là, quand même, ils ont quand même réagi. Et donc maintenant, c'est 3 jours. Mais les gens qui, le 12 et 13 juillet, ils allaient avoir un test hier. Donc ça fait, pendant ce temps-là, vous savez, vous avez le temps de faire des petits. Hein. Et c'est ce qui est en train de se passer, puisque ce matin, j'ai appelé Luc Duquesnel, ils sont à 383 ou 393 cas, plus 100 en 4 jours.
Là, ça veut dire que c'est plus sous contrôle, à votre avis, Jean-Paul Lamont ?
Clairement, c'est pas sous contrôle. Alors, c'est pour ça qu'Olivier Véran a décidé de faire mettre des masques dans civil, mais c'est pas suffisant.
Effectivement, 6 communes de la Mayenne sont déjà, d'ores et déjà, passées
par des masques. Et on voit bien l'inertie et puis la crainte du gouvernement d'affoler les gens. Mais il faut pas s'affoler. C'est quelque chose qu'on contrôle relativement avec, on a des tests, on a des
alors
protections.
Alors vous dites, il ne faut
etc.
pas s'affoler. Il faut quoi alors?
Mais il faut mettre des masques. Il faut mettre des masques partout dans les lieux. Faut respecter les gestes barrières. On a bien vu.
Ça, on le dit depuis le début. Hein.
Mais on a bien vu qu'avec la fête de la musique, il n'y a pas eu l'explosion qu'on pouvait attendre. Ouais. Donc on a vu quand même que des gens dans les lieux ouverts, ça se transmettait pas de façon colossale.
On va poursuivre notre discussion cette fois-ci. Le gouvernement accélère. Emmanuel Macron avait d'abord évoqué le 1er août pour passer au masque obligatoire, mais le Premier ministre a pris les devants. La mesure entrera en application finalement en début semaine. Et il faut dire que dans certains cas et dans certains départements, comme la Mayenne, les indicateurs de l'épidémie passent au orange, comme vous le disiez tout à l'heure. Certains considèrent qu'ils passent au rouge. Julien Launay, Nicolas Baudry-Dasson.
Je vais donner la parole au Premier ministre, M. Jean Castex.
Après l'Assemblée, le Sénat. Ce matin, au Palais du Luxembourg, Jean Castex vient prononcer son discours de politique générale. L'occasion pour lui de faire une annonce. Le port du masque dans les lieux publics clos sera finalement obligatoire dès la semaine prochaine.
Nous envisagions une entrée en vigueur de ces dispositions le 1er août, parce qu'encore une fois, nous agissons dans une logique préventive et pas sous l'empire de l'urgence. J'ai entendu et compris que cette échéance apparaissait tardive ou suscitait quelques interrogations, le décret entrera donc en vigueur la semaine prochaine.
Coup d'accélérateur donc, avec l'application anticipée de cette mesure sanitaire annoncée par Emmanuel Macron. Lors de l'interview présidentielle du 14 juillet, l'échéance était plus lointaine.
J'ai demandé à ce qu'on passe une étape au gouvernement et je souhaite que dans les prochaines semaines, on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos. Nous allons, on va observer la situation, mais nous mettre en situation de pouvoir, par exemple à partir du 1er août, le rendre totalement obligatoire.
Alors pourquoi ce calendrier soudainement revu et corrigé ? L'épidémie gagne du terrain, en particulier en Mayenne, où le seuil d'alerte a été légèrement dépassé. Un peu plus de 50 contaminations pour 100 000 habitants en une semaine. Hier, le préfet a pris un arrêté pour rendre le port du masque obligatoire dans 6 communes, dont celle de Changé. Pour autant, il ne s'agit pas encore de punir les récalcitrants.
Pas d'amende pour l'instant, mais on sensibilise. Je ne suis pas pour la verbalisation. On fera des rappels à l'ordre.
Et la situation à plus grande échelle a de quoi susciter l'inquiétude des autorités. Sur cette carte, voici le taux de reproduction du virus. Dans les Pays de la Loire, un malade du coronavirus contamine une personne et demie. C'est un peu moins en Nouvelle-Aquitaine et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vigilance de mise aussi dans les Hauts-de-France et en région parisienne.
J'ai également, Hélène Rousset, des signaux, pas inquiétants, mais en tout cas des signaux d'attention particulière en provenant de certains hôpitaux parisiens, je le dis, avec un certain nombre d'indicateurs. Vous savez, nous suivons des batteries d'indicateurs, ce que j'appelle des signaux faibles de reprise épidémique, les appels à SOS médecins, le nombre d'appels au SAMU, le nombre d'admissions à l'hôpital. Et nous assistons dans certains hôpitaux parisiens à des signaux faibles de reprise épidémique. C'est pourquoi je demande aux Français de rester particulièrement vigilants, actif. Il n'y a pas besoin de décret pour être vigilant, il n'y a pas besoin de décret pour être actif contre le virus.
Depuis plusieurs jours, des médecins réclamaient le port du masque obligatoire dans les lieux publics clos. Est-ce suffisant pour freiner la propagation ou faut-il aller jusqu'à l'imposer sur la voie publique ?
La rue, avec l'air libre, n'est pas le lieu le plus propice pour la transmission du virus. Lorsque les personnes se croisent, elles se croisent rarement à moins de 1 mètre. Et puis, le temps de contact entre les personnes est très court. Donc, ce ne sont pas les conditions les plus favorables. Néanmoins, évidemment, si jamais on était dans une situation épidémique qui échappait, je crois que malheureusement, la restriction de circulation serait plus efficace que le port obligatoire du masque dans la rue.
Le spectre d'un reconfinement en cas de deuxième vague. Si un tel scénario devait se produire, il serait plus ciblé que le précédent, a déjà fait savoir Jean Castex.
Je voudrais qu'on bondisse sur ce qu'on vient d'entendre. Ce médecin qui explique que la restriction de circulation serait de toute façon plus efficace que le masque si ça repartait vraiment.
Oui, enfin, ça veut dire que si le masque n'est pas suffisant, si le port de masque par tous dans les lieux clos n'est pas suffisant pour faire obstacle à la transmission du virus, pour le ralentir suffisamment de façon à ce qu'on reprenne un peu la main sur la circulation du virus, à ce moment-là, évidemment, on sera obligé d'envisager la mesure que d'ailleurs les Allemands ont envisagée dans une zone autour de leur cluster abattoir, la mesure que les Espagnols ont envisagée autour de Lérida, je crois, c'est-à-dire effectivement de faire un cordon sanitaire sur une zone géographique limitée. Mais bien évidemment, quand nous on a dit mais il faut que tout le monde mette un masque. L'idée, c'était, on a une mesure qui est à notre portée, qui diminue, on le sait, la circulation du virus, et qui finalement n'oblige pas à arrêter l'activité, même dans une zone géographique. Donc on avait tout intérêt à prendre cette mesure suffisamment tôt. L'histoire va nous dire si c'était trop tard.
Mais pourquoi, du coup, le gouvernement a, à votre avis, et en prenant un peu de recul, tellement hésité sur cette mesure du masque obligatoire ? On voit bien depuis le début, on entendait Olivier Véran dire « il ne faut pas inquiéter, je ne veux pas inquiéter les Français ». Il y a toujours cette hésitation entre des mesures de précaution pour éviter la catastrophe et puis en même temps l'idée d'accompagner les Français un peu en perte au pluriel de la nation, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Oui. Au final, est-ce que ça, ce n'est pas contre-productif ?
Oui, tout à fait. Mais je pense qu'il y a une culpabilité politique assez forte d'avoir décidé le confinement. Même s'il n'y avait pas d'autre choix, il y a toujours l'idée, l'économie a été arrêtée, il y a un choix sanitaire qui a été fait, alors dont il se félicite. D'ailleurs, on a mis le sanitaire avant l'économie, mais les conséquences économiques sont telles qu'il y a une difficulté aujourd'hui à trouver la balance entre à conjuguer, tout simplement, parce que vous parliez tout à l'heure du fait qu'il ne fallait pas diffuser d'inquiétude, parce que l'inquiétude empêche l'économie de repartir. Donc il y a ce jeu en permanence, et c'est vrai que là, depuis...
Je ne pense pas qu'il faille le faire. Le gouvernement pense qu'il faut ne pas diffuser
l'inquiétude. Oui, bien sûr, c'est ce que je
Mais en
dire.
Même temps, le fait de ne pas diffuser les éléments inquiétants fait qu'on ne peut pas demander à la population de ne pas se relâcher. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'incrédulité.
On va laisser finir ça, dit Kevin.
Mais c'est vrai qu'en permanence, il y avait la volonté de dire bon, maintenant les Français peuvent retourner à leur activité, ils peuvent à nouveau se retrouver en famille, vous aurez des vacances, avait dit Édouard Philippe. Et donc il y a la difficulté aussi politique à assumer une privation de liberté. On voit toute la difficulté d'ailleurs pour le président de la République d'assumer clairement cette privation de liberté de dire voilà, le masque obligatoire à partir du 1er août. Il ne le dit même pas si clairement que ça. Et donc, on est dans cet entre-deux. Et c'est vrai que dans la mesure où on n'a pas d'informations qui sont claires, qui sont univoques, puisqu'on a entendu en 3 jours le président de la République qui ne disait pas tout à fait la même chose que le Premier ministre et encore le ministre de la Santé cet après-midi. Donc, il y a une difficulté à rassembler la parole publique. Et quand la parole publique n'est pas rassemblée, ça ne fonctionne pas, tout simplement. Et puis, c'est vrai que c'est l'été. Donc, il y a une volonté que l'activité économique touristique reparte. Et ça, c'est plus difficilement conciliable avec le port du masque.
Après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le masque peut être un obstacle à l'activité économique ?
On voit le problème qu'a eu par exemple Christian Estrosi qui essaie de faire revivre sa ville de Nice. Des événements étaient organisés comme le fameux concert de The Avenger samedi soir. Ça a fait un petit scandale parce qu'effectivement il y avait un problème de son, donc les gens se sont regroupés autour des enceintes. Donc on a eu des images de gens très proches les uns des autres. Et maintenant Christian Estrosi va organiser des rassemblements mais avec le masque.
À l'extérieur.
Alors c'était déjà à l'extérieur mais avec le masque. Et il a un gros problème parce qu'il a le départ du Tour de France à la fin du mois d'août. À Nice, donc voilà, il a décidé que ces mesures seraient assez dures jusqu'au 15 août et puis après relâcher un peu, parce que c'est ça en permanence, même les élus locaux sont dans ces difficultés-là, libérer la vie ou bien alors...
Martin Blachier, sur cette difficulté de trouver un langage clair.
Je ne suis pas tout à fait d'accord.
Alors allez-y.
Pourquoi ? Parce que je pense que le gouvernement a écouté beaucoup de gens qui ont dit que l'épidémie était terminée, et ils y ont cru. Il y a beaucoup de gens qui sont allés dans la presse et dire c'est terminé, l'été ça va terminer les circulations du virus, et tout le monde y a cru. Et donc,
tout
le monde avait envie d'y croire, non, mais on peut le comprendre. Ouais. Et donc, du coup, on s'est dit, non, mais là, ce qu'il faut surtout, c'est qu'on oublie le virus et qu'on réavance. Or, il s'avère qu'il y a une réalité qui vient d'arriver. Hein. Ce n'est pas comme si c'était une réalité qu'on connaissait, tout le monde n'en était pas certain. Maintenant, on sait qu'il va revenir. Les gens qui disaient qu'il allait revenir avaient raison. Et donc, on est devant cette réalité. Et on vient d'être devant cette réalité. Ça fait 2 semaines qu'on dit que le virus repart. Et il y avait encore beaucoup de gens qui pensaient que ça allait pas repartir. Donc maintenant, il faut tout réinventer.
Vous étiez de cela, je le précise.
Non, mais il faut tout réinventer avec l'idée que ça va repartir. Et donc, je pense qu'on est quand même relativement réactif. Là, il s'accélère. Et je pense pas qu'on va avoir perdu beaucoup de temps entre le moment où on se dit « Ah bah oui, finalement, ça repart vraiment. Donc, qu'est-ce qu'on fait ?» En revanche, je pense qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est de dire jusqu'où on ira et jusqu'où on n'ira pas pour la suite. Ouais. Parce que imaginons, et là je suis tout à fait d'accord, il faut évoquer les scénarios pessimistes, imaginons qu'on n'arrive pas, soit le masque n'est pas porté, soit ça repart malgré le masque, ce qui est possible, hein, c'est des scénarios qui existent, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait des cordons sanitaires ? Mais ça pose des questions, parce que imaginons qu'il y ait des zones qui s'allument partout en même temps. On va boucler des zones comme ça, et puis là, pour le coup, ça va être terrible pour la vie sociale. Ou est-ce qu'on fait des confinements partiels, ou est-ce qu'on demande à certains types de personnes vulnérables de ne pas aller dans des zones où ils risquent de se contaminer ? Voilà, c'est ce genre de sujet qu'il faut évoquer pour éviter d'avoir en permanence, effectivement, ce balancier assez fini, assez paniquant.
Il y a des scénarios qui ont été mis au point par le Conseil scientifique. Avec 4 étapes voilà, où on va passer d'alerte verte, orange, rouge écarlate, avec l'idée d'un... Le reconfinement général n'aura jamais lieu, d'après ce que...
C'est la seule chose dont on est à peu près sûr, encore, c'est pas dit si clairement que ça. Pour l'instant, moi, j'entends 2 théories. J'entends la théorie à l'allemande, c'est-à-dire on enferme les gens dans un territoire clos en mettant l'armée autour pour être sûr qu'ils n'y sortent pas. Ouais. Et puis, il y a la théorie que moi, je défends plus, que des gens commencent à discuter, c'est si jamais ça repart, eh ben, on continue de vivre. Simplement, il y a une partie de la population, temps que ça se termine, la plus faible, qui devra faire extrêmement attention pour être sûr qu'on puisse prendre en charge les patients sévères dans les services hospitaliers.
Vous avez raison de parler de l'Allemagne, parce qu'effectivement, ils se sont mis d'accord sur cette technique-là, qui consisterait avec des zones géographiques limitées, avec des interdictions strictes de sortir de ces zones géographiques. Et ces zones-là seraient effectivement surveillées par l'armée. Là, c'est la méthode un peu raide. Jean-Paul Hamon, est-ce que vous pensez que les Français vont se plier à cette obligation du masque obligatoire dans les endroits clos, si tant est qu'on se mette tous d'accord sur ce que ce seront les endroits clos?
Je pense qu'ils ne vont pas avoir le choix. Ils ne vont pas avoir le choix parce que je pense que personne n'a envie d'être confiné. Ce matin, j'ai marché, j'ai longé une dizaine de boutiques. Il y en avait 5 où c'était clairement écrit « Vous rentrez ici avec un masque ». Et donc les commerçants n'ont pas envie qu'on se reconfine, et tous les gens qui ont une activité n'ont pas envie d'assister au reconfinement. Et je pense sincèrement, alors c'est vrai que le gouvernement a aussi hésité à rendre ça obligatoire, parce que déjà on a commencé à parler de dictature, de mesures, etc., dictatoriales, avec Stop Covid qui fliquait tout le monde, etc. Alors que vous avez peut-être lu l'article dans Télérama aujourd'hui, mais Doctolib, tout le monde prend ses rendez-vous sur Doctolib et on siphonne vos données allègrement et personne ne dit rien. Alors que Stop Covid, c'est un outil, c'est pas une maladie sexuellement transmissible, la Covid-19. Donc c'est quelque chose qui est important de contrôler. Et on s'étonne, moi je m'étonne de voir que tous les jeunes qui téléchargent des tas d'applications ne téléchargent pas massivement Stop Covid. Parce qu'on a bien vu que ça aurait été bien utile à la fête de la musique s'il y avait eu des cas. À Nice, ça aurait été pareil. On va rouvrir les stades, il va y avoir 5000 personnes. Moi, je ne laisserai pas rentrer les gens dans un stade s'ils n'ont pas Stop Covid et s'ils ne sont pas masqués. Ouais, ouais. Si vous voulez, il faut avoir... Si on veut,
ça reposait sur le volontariat.
Si on veut que vraiment le pays se protège, qu'on continue à bosser, il faut s'habituer à vivre avec ce virus. On n'en est pas débarrassé. On a toujours dit que le virus continuait à circuler, qu'il n'était pas parti, etc. Je ne pensais pas à une deuxième vague. Je pensais vraiment qu'on allait contrôler la chose avec un cluster, etc. On a vu qu'en Mayenne, la réactivité n'a pas été excellente. Ouais,
c'est ça qui nous inquiète.
Et ça, c'est dommage, parce que là, il faut quand même réagir et rapidement, envoyer des gens mobiles pour prélever massivement. C'est ça qu'il faut.
Cette question que j'allais oublier, mais pourquoi la Mayenne, nous demandons ce soir, Anne-Claude Crémieux ? Qu'est-ce qui s'est passé en Mayenne ?
Des clusters. Plusieurs clusters, dont un cluster d'abattoirs, et manifestement qui n'ont pas été détectés suffisamment tôt, et qui finalement, au moment où les autorités sanitaires sont intervenues, avaient déjà diffusé dans la communauté, c'est-à-dire qu'on avait perdu la fameuse ligne qui permet qui permet de retrouver tous les contacts. Et à partir du moment où la diffusion devient silencieuse, invisible, évidemment, là, ce n'est plus possible de retrouver les contacts, on est obligé de faire un dépistage massif. Dépistage massif et en principe de limiter la circulation. Et là aussi, on a l'impression que, au fond, on a opté pour une mi-mesure. Et je dirais, par rapport à ce que vous avez dit, j'adhère complètement sur votre idée qu'il faut, rendre public les scénarios les plus pessimistes et dire clairement le choix que le dirigeant vont faire. Mais malheureusement, j'ai l'impression que, faute de réactivité, comme vous le soulignez, nous n'avons plus, le choix qu'ont les Allemands, c'est-à-dire de décider un confinement limité. En tout cas, c'est ma crainte. Mmh.
Ce serait une bonne option, ce que font les Allemands,
D'une certaine manière, ce confinement limité, encore une fois, pas seulement les Allemands,
c'est confinement limité, mais extrêmement strict, parce qu'il y a une interdiction absolue de sortir, sauf nécessité absolue. Donc,
n'oubliez pas que nous sortons de 8 semaines, c'est ça, de confinement, et que tout le monde a joué le jeu. C'est-à-dire que je pense qu'en Mayenne, personne n'a envie que l'épidémie se prolifère. Et donc, on a une population qui, à partir du moment où on lui explique clairement le niveau du risque, adapte son comportement. Et c'est pour ça que je trouve que le gouvernement a tort, parce qu'au fond, il fait des injonctions pour dire à la population « mais ne baissez pas les bras, ne baissez pas votre vigilance », sans expliquer pourquoi. Et encore une fois, je pense qu'il se trompe, c'est le contraire, c'est l'épidémie repart, alors oui, on vous demande d'être plus vigilant, oui, on vous demande un sacrifice quelque part, qui est de porter les masques dans les lieux clos. On sait, c'est pas super agréable, on aurait aimé ne pas vous le demander, mais on est obligé de vous le demander parce que tous ensemble, on n'a pas envie que le virus diffuse. Et ça, on n'a pas ce type de langage clair.
Mmh. Si c'est juste porter le masque, ça va. Si c'est rester chez vous et du coup ne consommez plus, ne sortez plus, n'allez plus au restaurant, c'est là que ça devient compliqué à assumer pour un gouvernement qui va encaisser une crise économique majeure.
Bien sûr. C'est pour ça qu'on attendait de Monsieur Déconfinement qu'il ait une réactivité suffisante pour arrêter freiner suffisamment cette circulation avant qu'on soit confronté à des mesures trop difficiles.
Sozi Kemener, et là, on va se heurter et se confronter à un débat sur que sont les endroits clos, avec déjà les entreprises qui disent est-ce qu'on va devoir travailler 8 heures avec un masque. J'ai appris en préparant cette émission que les entreprises, c'était la deuxième source de clusters selon Santé publique France. Donc, des lieux clos, est-ce que ça veut dire toutes les salles de sport? Est-ce que ça veut dire toutes les entreprises? Est-ce que ça veut dire voilà?
Alors, il n'y a pas de définition légale des lieux clos, donc on va pouvoir s'appuyer sur ce qu'a dit le préfet de la Mayenne, puisqu'ils sont aux avant-postes de ce nouveau moment épidémique. Je ne sais pas si vous parlez de nouvelle vague ou de rebond, ça, je vous laisserai qualifier ça. Mais en tout cas, lui, ce qu'il explique, c'est les établissements recevant du public. Donc, c'est les endroits, les administrations, les commerces, etc. En revanche, pour ce qui est de l'entreprise, et Jean Castex l'a bien dit, c'est à chacun de voir et de discuter dans sa propre entreprise. Parce que là, on voit aujourd'hui les gens arrivent avec des masques au travail. travail, s'ils sortent des transports en commun, et les autres en arrivant. Donc la question va être de savoir, est-ce qu'on demande s'il n'y a pas de distanciation, enfin, il n'est même plus question de distanciation, d'ailleurs, est-ce qu'on va demander aux personnes à la rentrée, aux salariés, de porter des masques ou à ceux qui ne sont pas encore partis en vacances. Ça, ce n'est pas encore très clair. Donc, on va attendre des éclaircissements. On en saura plus la semaine prochaine, puisque le décret doit être publié la semaine prochaine. Mais c'est sûr qu'il faudra que Jean Castex soit précis là-dessus. Parce que quand on regarde aujourd'hui, normalement, le protocole sanitaire des restaurants indique ouais. qu'il faut porter un masque quand on se déplace, quand on se rend aux toilettes, par exemple, quand on est au restaurant. On a tous pu le vérifier, dans la pratique, personne ne porte de masque quand il se lève de sa place pour aller se laver les mains.
Qui fait imposer les règles ? Ça a très bien fonctionné dans les transports en commun parce qu'il y avait une amende de 135 euros.
Oui, et là en Mayenne, c'est ce qu'annonce le préfet de Mayenne aujourd'hui, c'est-à-dire une amende de 135 euros pour... Alors après, il y aura certainement un moment de tolérance, et puis il n'y aura pas des contrôles partout, c'est impossible. Mais on voit déjà, c'est ce que vous expliquez tout à l'heure, c'est que les commerçants ont commencé, et ils auront ce pouvoir-là, parce que ça a créé beaucoup de litiges, de
mini-litiges. Ça crée des tensions. Hein.
Voilà, c'est vous avez un masque, vous êtes derrière moi dans la queue, vous n'avez pas de masque, moi j'en ai un, la personne... Ouais. Donc on commence à entendre, à voir ce genre de scène. Donc là, au moins, la règle est commune, c'est clair pour tout le monde. Il faut porter le masque et je pense que c'était nécessaire.
Et ce sera peut-être plus simple pour les commerçants. On va voir comment ça se passe. Saint-Ouen n'a pas attendu la décision de Jean Castex pour rendre le port du masque obligatoire. C'est la règle depuis lundi dernier après la découverte d'un cluster dans une école de la ville. Une décision prise par le préfet. Et vous allez le voir qui n'est pas si simple à appliquer. Reportage Antoine Magnon, Laura Rado et Diane Cacciarella.
Dans les rues de Saint-Ouen, certains choisissent d'être masqués, d'autres pas. Et dans les commerces, les mauvaises habitudes perdurent. Pourtant, depuis 3 jours, le port du masque dans les lieux clos de la ville est rendu obligatoire par un arrêté préfectoral après la découverte d'un foyer de contamination dans une école maternelle.
Je pense que c'est une bonne idée. Il faudrait que tout le monde le porte. Comme ça, même dans les lieux comme ça, les boulangeries, les tabacs, les bars, les cafés, à un moment donné, il faut que tout le monde le mette. Parce que c'est vrai que c'est clos, c'est fermé. Donc à un moment donné, il faudrait que tout le monde mette le masque.
C'est pas le cas, là.
Non, là, c'est pas le cas. Vous avez vu le monsieur qui est entré à l'instant, il a pris son pain au chocolat, il est ressorti, mais sans le masque.
Une obligation nouvelle dont beaucoup décident de s'affranchir, quitte à s'exposer à une amende de 135 euros.
Si on respecte la distance réglementaire, je vois pas la nécessité forcément d'avoir un masque.
Je peux pas tenir comme ça toute une journée, c'est impossible. C'est vraiment désagréable. Et je ne pense pas que ça apporte un intérêt vraiment que je suis protégée comme ça. Déjà là, je sors, je vais l'enlever.
À quelques mètres de là, devant ce laboratoire, une quinzaine de personnes fait la queue pour se faire tester. Ici, aucun masque ne manque à l'appel et chacun réclame du civisme.
Je trouve que la population se néglige au niveau du masque, quoi. Ils ne respectent pas les consignes. On voit très bien. Là, je voyais un monsieur qui était derrière moi. Il était en train de tousser. Il n'avait pas de masque sur lui.
À partir de la semaine prochaine, ce qui se passe à Saint-Ouen va devenir la norme en France, dans tous les lieux publics clos. Un terme un peu vague qui va devoir être précisé par le gouvernement. Le décret pourrait se baser sur la notion d'ERP, les établissements recevant du public. Ce sont tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution. Devraient donc être concernés les commerces, musées, salles de cinéma ou encore les lieux de culte, avec quelques ajustements possibles.
A priori, on se dirige vers une obligation par catégorie de lieux. Typiquement, pour des restaurants, c'est plus compliqué d'imposer le masque, par exemple, que pour un magasin de vêtements. Et donc, on va sans doute avoir un décret qui va un petit peu nuancer cette annonce politique.
Car dans certains lieux, il est difficile d'envisager un port constant du masque. C'est le cas dans les bars, les restaurants, mais aussi les salles de sport. Pour ces habitués, une telle obligation serait particulièrement malvenue.
Placez-vous sur la tranche, vous me regardez tous.
Je ne pense pas continuer à venir dans la salle de sport. Je ferai du sport chez moi ou sur mon lieu de vacances, mais pas dans la salle de sport.
Et vous relâchez. Vu que j'ai un abonnement, je pense que je continuerai à venir, mais sans doute moins souvent. Parce que c'est quand même désagréable quand on transpire, quand on respire, d'avoir le masque sans arrêt.
Depuis la réouverture de la salle en juin, la direction a mis en place un certain nombre d'aménagements. Désinfection des tapis de sol, indication du sens de circulation et d'une nouvelle sortie, mais pas de masque obligatoire pendant les activités, pour le moment.
ça nous mettrait face à une situation kafkaïenne de personnes qui, certes, peuvent venir, mais n'ont pas envie de venir dans des conditions qui ne leur conviennent pas. Et donc, économiquement parlant, on aurait des conséquences que je n'ose imaginer. On a déjà été fermé 3 mois entiers, du 16 mars au 17 juin. Et on a la crainte que ça puisse refermer, ce serait catastrophique.
Reste enfin la question des entreprises. Le masque sera-t-il obligatoire au bureau ? A priori, non, si l'entreprise n'accueille pas de public. Le lieu de travail pourrait donc être l'une des rares exceptions à la nouvelle mesure.
On est en train de parler des salles de sport. Comment on fait, Anne-Claude Crémieux, dans une salle de sport avec le masque obligatoire ?
On met un masque. Et en plus, si vous voulez, les salles de sport, il y a eu plusieurs clusters qui ont été décrits aux États-Unis dans des salles de fitness et de sport, parce qu'effectivement, le fait de faire de l'exercice augmente la fréquence respiratoire, donc l'émission de particules infectieuses, et par conséquent, d'aérosols aussi. Et donc, effectivement, ce sont des situations à risque, et la seule façon d'éviter la transmission, c'est le masque.
Mais ça pose pas de problème de santé, de courir, de faire du cardio avec un masque?
Non, mais si vous avez un masque FFP2, là, vous êtes très vite essoufflé parce que l'air ne passe pas. Mais si vous avez un masque chirurgical, c'est comme si vous vous entraîniez en côte. Hein. Vous avez une côte légère, c'est vrai que vous êtes moins performant avec un masque que sans masque. Mais vous protégez les autres de vos projections. Donc, en fait, moi, j'ai essayé la première fois où je suis repris de travail. J'avais un masque FFP2, j'avais ma sacoche et mon sac à dos. Je peux vous dire qu'au bout de 100 mètres, je me suis dit, ça ne va pas comme avant.
Allez, au bout d'une trentaine de minutes, je ne supporte plus le port du masque, même dans un lieu climatisé, comment faire ? C'est pas facile de porter le masque en ce moment, il va faire chaud, c'est l'été.
Si on ne peut pas porter de masque, il faut essayer de faire de la distanciation physique, hein. C'est l'autre seule autre solution. Et puis je pense qu'il y a aussi une autre chose, c'est que les gens qui sont vulnérables, il faut qu'ils évitent les endroits peuplés. Je pense que ça reste vrai. On ne sait pas exactement l'efficacité qu'aura cette mesure, on ne sait pas comment ça va être appliqué, c'est très bien de la faire, mais je reste persuadé qu'on ne sait pas exactement comment le virus circule. Je pense qu'on a une vision très biaisée de la circulation virale.
Pourquoi il pourrait circuler de quelle manière ?
Parce que je pense qu'il circule chez les jeunes. Je pense qu'il circule chez les jeunes de manière totalement cachée. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure. Hein. C'est très, très intéressant qu'on dit pourquoi les gens font des tests. C'est les gens, avant d'aller voir de la famille, avant de partir en voyage, ce n'est pas ces gens-là qui sont à risque. Les gens qu'il faudrait tester, c'est les gens qui sortent le plus, qui s'exposent le plus. Or, je ne pense pas que ce soit ces gens qui se testent. Moi, j'ai eu dans mon entourage beaucoup de gens avec des histoires de cas positifs qui ne sont pas dans des clusters. Donc, c'est pareil. Je pense qu'il n'y a pas que des clusters. Je pense qu'il y a une circulation communautaire. Et donc, je pense qu'il faut rester prudent.
On a une mauvaise connaissance de l'épidémie.
Une mauvaise connaissance de l'épidémie. On sait assez bien comment ce virus, maintenant, se transmet. On sait assez bien les circonstances.
De l'état de l'épidémie.
Je pense qu'on ne sait pas aujourd'hui comment. Et je pense qu'il y a la Mayenne, mais je suis persuadé qu'il y a d'autres endroits où il y a de la circulation virale. C'est pareil, on a regardé le nombre de tests qui sont faits dans les différents départements. Il y a des départements, on a des taux de positivité sur très, très peu de gens qui ont été testés. Donc, en fait, on dit oui, on sait qu'il y a un certain nombre de taux de positivité, mais en fait, il y a très, très peu de tests. Donc, on a une très, très mauvaise vue de la réalité. C'est qu'ils disent oui, on a des indicateurs, on se décide, mais ils ont des indicateurs qui sont franchement à remettre en question. Et moi, je pense qu'il y a une histoire de l'épidémie et que l'histoire, c'est que ça circule plus aujourd'hui que ça circulait avant et que des gens qui sont à risque, il faut qu'ils fassent attention. Et même s'il y a toutes les mesures qui vont être mises en place, il faut rester prudent.
Ça, c'est le message clé que vous voulez faire passer aujourd'hui, c'est que les personnes qui sont les plus faibles, les plus âgées ou qui ont des comorbidités, comme on dit, doivent se protéger et doivent éviter les endroits où il y a du monde, tout simplement.
C'est exactement ça, parce que c'est de ça. Aux États-Unis, quand est-ce qu'ils ont commencé à paniquer ? C'est quand les services sont pleins. Parce qu'on dit, oui, quand est-ce qu'on va commencer à s'inquiéter ? C'est simple, on commence à s'inquiéter qu'on ne peut plus recevoir les gens dans les services hospitaliers. Avant, c'est de la petite inquiétude, on ne voit pas les choses. Mais le jour où ça arrive, c'est déjà trop tard. Et les gens qui seront dans les services à ce moment-là, c'est les gens qui seront exposés un mois avant. Donc il faut faire attention dès maintenant.
Est-ce que les hôpitaux se préparent, Anne-Claude Crémieux ? Est-ce qu'ils sont prêts ? Est-ce que le fait qu'on annonce une reprise de l'épidémie, on est quand même le 16 juillet, un pic de l'épidémie qui pourrait intervenir un peu plus tard, au mois d'août, par exemple, comme le disent certaines projections. Hein. Est-ce que ça, c'est un problème, que ça se passe pendant les vacances, en termes d'effectifs ?
Ce qui est un problème, c'est que ça se passe, soyons clairs, parce que effectivement, l'hôpital sort d'une période extrêmement difficile, qui a vraiment éprouvé l'ensemble du personnel hospitalier, qui l'a extrêmement fatigué, harassé, et je dois dire que personne n'envisage le fait qu'on soit obligé de faire le même effort. Et donc, c'est pour ça, je pense que les médecins sont les premiers à dire attention, jouez sur la prévention, parce que, d'accord, si ça se passe, certains pourront aller se protéger, les personnes anciennes, mais nous, on sera en première ligne. L'hôpital sera de nouveau sollicité. Mmh. Donc, il ne faut pas oublier, il y aura toujours les acteurs de première ligne. Hein. Et ceux-là, ils seront de toute façon sollicités. Et aujourd'hui, ils ne sont pas forcément en état.
Alors, il y a un message qui est porté de manière claire par le gouvernement désormais, disons-le quand ça fonctionne, c'est les tests. En tout cas, l'idée de dire, allez vous faire tester. Aujourd'hui, Olivier Véran a dit, on est capable de faire 1 million de tests par semaine.
Oui, alors il y a quand même des endroits où c'est compliqué. Il y avait un reportage dans Le Monde très intéressant ce matin qui expliquait qu'en Île-de-France, c'était très très compliqué de se faire tester. Olivier Véran a été interrogé sur cette question précise ce matin. Il répond effectivement qu'il y a les départs en vacances, les déplacements familiaux qui font qu'il y a une demande un peu supérieure en ce moment. Mais ça pose la question de savoir si on repart dans une période aiguë, on sera en capacité. Alors lui dit que les réactifs, on est obligé de l'écouter, hein, je ne suis pas en capacité de dire si les réactifs sont présents ou pas, il dit que les réactifs sont présents. Ce qui pose question apparemment, c'est plutôt la main-d'œuvre, c'est-à-dire qui fait les tests. Alors il dit que depuis que les techniciens de laboratoire ont l'autorisation de faire les tests, il y a plus de possibilités de développer des tests un peu partout, mais c'est vrai qu'il y a toujours une interrogation sur la capacité à réagir très vite et dans un délai très court. Parce que maintenant, certains attendent les résultats des tests 3-4 jours. Donc
ça, vous nous l'avez dit dès le début, Jean-Paul Hamon, c'est toujours la croix et la bannière pour se faire tester.
Alors c'est la croix et la bannière pour se faire tester, mais moi j'aimerais qu'on anticipe un petit peu, parce qu'on va bientôt rentrer dans l'hiver, là. Si on anticipe un peu, on va bientôt rentrer dans l'hiver. Les autres virus vont venir. Hein, donc là, en ce moment, quand on a quelqu'un qui présente un syndrome grippal, on se dit, bon, on n'a pas trop le choix, on se dit, c'est la Covid. Hein. Ouais. Mais quand il va y avoir le VRS, quand il va y avoir la grippe, il va falloir qu'on ait des tests. Donc j'ai interrogé François Blanchecotte, le président du syndicat des biologistes, je lui ai dit, mais écoute, nous, ce qu'il faudrait qu'on ait, c'est un test qui nous permette de distinguer les trois, le VRS, la grippe et le Covid.
Et pourquoi il faudrait distinguer les
trois ? Parce que, attendez, vous n'allez pas confiner tous les mecs grippés, vous comprenez ? Parce qu'alors là, je vais vous dire, il va y avoir du monde confiné. Hein. Et tous les gamins qui vont choper le VRS, donc...
C'est quoi le VRS ?
Bah, c'est le virus qui colle la bronchiolite, là, et enfin... Et
où les virus respiratoire syncytial.
Voilà. Oui. Et donc, il va falloir qu'on distingue. Si on confine tout le monde, je veux dire, on va confiner la moitié de la France. Ouais, donc il faut qu'on puisse avoir une réponse rapide sur est-ce que c'est la Covid ou pas.
Il faut être précoce.
Il faut qu'on l'ait dès le mois de septembre. Donc là, Blanchecotte m'a dit qu'ils avaient eux la capacité de tester. Mais est-ce qu'ils ont la capacité de tester massivement ?
Alors celui que vous appelez Blanchecotte, c'est celui qui gère en gros les labos français.
C'est le président du syndicat des biologistes. Hein. C'est pas lui qui gère, mais il en gère une partie.
Bon, sur les tests, on entend parler de tests salivaires. On entend parler à Nice de tests olfactifs. On est en train en ce moment même de tester à Nice une partie de la population. Ça se passe en ce moment même. On leur fait, puisqu'il y a des symptômes parfois qui sont des symptômes neurologiques avec la perte de l'odorat. Est-ce que les tests salivaires peuvent être efficaces ? Parce que vous nous avez expliqué les uns les autres depuis des semaines que le problème des tests, c'était les délais.
Absolument. Alors il y a effectivement un test salivaire. L'avantage, effectivement, c'est de prélever la salive. C'est assez facile. C'est pas un prélèvement nasopharyngé qui suppose une certaine technicité, en tout cas un minimum de formation. Ouais. Prélever la salive, c'est facile et à la limite, on peut pratiquement le faire soi-même. après, l'intérêt de ce test salivaire, c'est aussi un test rapide, c'est-à-dire qu'on a le résultat en 1h30. L'inconvénient, je dirais, c'est qu'aujourd'hui, sa sensibilité et sa spécificité ne sont pas encore connues et les premiers éléments laissent penser que ce serait peut-être moins sensible que le test habituel PCR. Mais néanmoins, l'idéal, ce serait évidemment d'avoir des tests avec des prélèvements faciles que chacun puisse faire. C'est-à-dire, on se prélève, on le donne au laboratoire où on a un petit système
un
de couleurs et on sait si oui ou non on est positif. L'idéal, ce serait ça. Bon, maintenant, on ne l'a pas encore. Probablement, on l'aura.
D'autres le font, ça, le test salivaire avec des résultats plus rapides. Est-ce que ça existe ailleurs ?
Non, c'est le test dont je vous pas. C'est-à-dire que pour l'instant, il est relativement peu évalué, mais c'est évidemment une voie extrêmement intéressante. De pouvoir s'auto-tester, d'avoir un résultat en une heure et demie, c'est parfait. Bon, on n'a pas ça, et donc, qu'est-ce qu'il faut faire, effectivement, pour lever le frein à l'accès aux tests, il faut qu'on puisse avoir des systèmes de prélèvement partout et très simple. Donc, pas forcément
ce serait quoi,
dans
l'idéal,
les laboratoires.
Ce serait le camion devant le supermarché.
C'est le camion devant le supermarché, c'est la cabine dont on a parlé, parce que tout ça a été expérimenté. Là encore, ce qui est quand même assez dramatique, c'est qu'on n'invente rien. C'est-à-dire que tous ces systèmes ont été mis en place dans d'autres pays très réactifs, comme la Corée, si je puis parler de réactifs.
Est-ce que l'idéal, ce serait qu'on aille tous se faire tester?
Mais c'est toute la question, en fait. On va se faire tester tout le temps, du coup. C'est-à-dire que dès qu'on sent quelque chose, dès qu'on a croisé quelqu'un, peut-être croisé quelqu'un, on va faire un test, et puis on va attendre qu'il soit négatif. Et puis, en attendant d'avoir les résultats, on va s'enfermer chez soi. Mais au bout d'un moment, les gens, quand ça ferait 3-4 fois qu'ils se sont testés, parce que peut-être que la copine du cousin que j'ai croisé dans le jardin de mon beau-frère a peut-être eu le Covid parce qu'il avait... Non, mais c'est ça, la limite de cette stratégie de test. C'est-à-dire qu'en fait, en permanence, on va croire qu'on a le Covid, on va s'enfermer pendant 3-4 jours, on va faire un test, il va être négatif, mais parfois, il est faussement négatif. Ouais. C'est-à-dire que voilà, ça a des limites quand même, cette stratégie de test. Mmh. Et honnêtement, quand on rentre tous ces paramètres dans des modèles, on se rend compte que l'impact des tests, il est limité. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a encore cette idée qu'il y a beaucoup de pays qui ont freiné l'épidémie avec des tests. Moi, j'en suis encore pas convaincu. Mmh. Je pense qu'il y a beaucoup de pays qui sont très stricts sur les mesures barrières, qui en même temps font des tests, et on a l'impression... C'est d'une manière assez biaisée que c'est ces stratégies de test. Je ne crois pas que le testing soit en capacité, comme je ne crois pas que le contact tracing était en capacité de contrôler l'épidémie. Il ne l'a pas contrôlé en mars, il ne l'a toujours pas contrôlé en juin. Je crois qu'il ne sera jamais en capacité de le contrôler.
Dans d'autres pays, il l'a contrôlé. Donc, je suis tout à fait d'accord sur le fait que ce n'est pas une mesure qui contrôle la chaîne de contamination, mais c'est l'association de mesures. Encore une fois, regardons ailleurs. Je retrouve là le même discours que nous dénoncions en février, de gens qui nous disaient écoutez, de toute façon, rien ne marche, ça sert à rien, on va attendre que le virus, on ouvre les portes de la ville et on va attendre que le virus arrive. Et puis finalement, on a regardé à côté, on s'est dit, mais la Chine l'a fait, ça a marché, la Corée l'a fait, ça a marché, et même l'Allemagne, qui a fait énormément de tests, a pu détecter et isoler les patients, et finalement, elle a réussi à avoir moins de morts. Donc, je dirais, l'association de plusieurs mesures, en tout cas, a une efficacité dans les autres pays. Et il ne faut pas dire qu'il ne faut pas regarder ailleurs. Je pense que ça, c'est très important.
Je pense que l'idée, c'est de regarder ce qui se passe ailleurs.
Ce n'est pas ce que j'ai dit. Moi, je pense qu'il y a eu un problème en France, il faut être honnête. On a dit l'épidémie est terminée et les tests vont nous régler le problème. Donc, on laisse tout le monde repartir, on va isoler tous les clusters et il n'y a pas de problème. Tout le monde l'a dit. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc, il faut quand même aussi voir ce qui n'a pas marché.
On peut se mettre d'accord sur l'idée que le masque, plus les tests, plus la distanciation sociale, plus l'anticipation, c'est la meilleure des options.
Exactement.
On va avancer, si vous le voulez bien, sur le troisième reportage. Hier, l'Académie de médecine a alerté sur les séquelles de la maladie. Plusieurs semaines après avoir contracté le Covid, certains patients souffrent d'atteintes cardiaques, pulmonaires, mais aussi de troubles neurologiques, perte du goût, de l'odorat, ça on l'a dit, mais aussi parfois de la confusion ou une très grande fatigue qui demeure parfois plusieurs mois après avoir contracté le virus. Pierre-Mila Bellando, Barbara Steck et Stéphane Lopez.
C'est un rendez-vous qu'elle attendait depuis longtemps. Laure Bachelier, 56 ans, se rend à l'hôpital Foch de Suresnes.
Bonjour madame. Madame Bachelier, j'ai un rendez-vous à 13h.
Dans un service pionnier. Ici sont traitées les personnes qui ont eu la Covid et qui en subissent toujours les symptômes.
D'un point de vue général, je m'essouffle quand même beaucoup plus vite qu'avant. Une grande fatigue, une sensation d'être sans cesse épuisée, au bout de mes forces, en tout cas très souvent. Là aussi, c'est pas roulement, mais ça reste constant. Face à cette situation où je me sens complètement démunie, J'ai dans l'espoir que tous ces symptômes cessent.
5 mois après avoir contracté une forme légère du virus sans hospitalisation, son dossier est désormais pris en charge par l'unité RIAB Covid.
Là, on va faire un circuit pour essayer de comprendre pourquoi vous avez encore des symptômes, pour faire des évaluations physiques, nutritionnelles,
et psychologique pour savoir dans quel contexte vous évoluez.
Les consultations s'enchaînent sur toute une demi-journée jusqu'au test physique avec un kinésithérapeute.
Allez-y. 1, 2, 3, plus fort. Allez-y, allez-y au maximum, forcez, c'est la dernière de ce côté-là. Forcez, encore un peu, et on recule.
Bah, essentiellement, ils ont une perte de force, ils ont des problèmes respiratoires, donc ils n'arrivent pas à tenir les grands efforts. C'est ça, essentiellement, surtout des troubles respiratoires et une sorte de fatigue musculaire. Donc nous, on va travailler sur ça en donnant des exercices et en travaillant la respiration, essentiellement. On y va, et le plus vite possible.
Quelques étirements, puis une marche rapide de 6 minutes sans interruption. Le souffle de Laura est mis à l'épreuve. Oui, vas-y. Un simple test que le virus a transformé en épreuve.
C'est jamais amusant de savoir qu'on a perdu en capacité, surtout quand on a été plutôt dynamique.
Cette unité fait face à énormément de demandes. Le docteur Barizien, spécialisé dans la médecine du sport, a dû réinventer son service.
On est relativement désemparé vis-à-vis des symptômes de ces patients, puisque comme ils n'ont pas de résurgence du virus, pour nous, ils n'ont pas de maladie. Ils n'ont pas de maladie identifiable. Donc, ils ont des symptômes dont ils souffrent. Souvent, ces symptômes sont relativement peu importants, malgré leur gêne fonctionnel. Les gens sont très gênés pour des symptômes qui ne sont pas très importants pour nous. Et donc, ça, on est capable, avec un tri, de déjà donner un diagnostic aux patients, leur dire « vous avez ça ». Et puis leur donner une solution. Et le traitement, ça peut être soit de la rééducation, soit un rééquilibrage nutritionnel.
Et la question des symptômes post-Covid se pose partout dans le monde. Au Royaume-Uni, certains chercheurs décrivent des conséquences neurologiques à long terme, même dans des cas légers.
On l'a remarqué chez ceux qui ont eu des problèmes du poumon, qu'ils soient sévères ou légers. Cela peut affecter le cerveau et les nerfs. On a même vu des cas, souvent chez des patients hospitalisés avec des problèmes de poumons et peu d'oxygène dans le sang. Ils sont confus et ont des problèmes mentaux, des hallucinations, des psychoses, ce qui peut faire très peur.
Mais la proportion de personnes réellement touchées par des symptômes post-Covid est pour l'instant inconnue. Signe supplémentaire que ce virus et ses conséquences reste encore mystérieux.
Alors justement, cette question qui nous est posée par Didier dans le Haut-Rhin, on évoque peu les séquelles de la maladie. Quelles sont-elles, intensité et durée? Jean-Paul Hamon.
Bah écoutez, là, moi j'ai deux exemples de personnes qui sont essoufflées dès qu'elles font un effort qu'elles faisaient allègrement sans problème. Et ils ont eu droit à une échographie cardiaque, on a éliminé une embolie pulmonaire. Ils ont une capacité pulmonaire qui fonctionne impeccable, ils ont un taux de saturation en oxygène qui est nickel, mais ils sont essoufflés. J'aimerais bien avoir les solutions dont a parlé le docteur Barizien, parce que franchement, là, on est sec. Hein. Ouais. Franchement, tous les symptômes, tous les indicateurs sont bons, mais la personne est essoufflée. Et donc, la moindre des choses, c'est d'écouter le patient et d'essayer de comprendre pourquoi il est essoufflé.
Oui, c'est vrai, comme le souligne d'ailleurs l'Académie de médecine, il y a deux ordres de troubles post-Covid. Il y a ce qui est les séquelles des atteintes organiques de la maladie. Et c'est vrai qu'il y a des patients qui ont été en réanimation, qui ont fait des pneumonies sévères. Il y a des patients qui ont eu des problèmes cardiaques. Il y a des patients qui ont eu des problèmes rénaux. Et là, il peut y avoir des séquelles. Je dirais là, au fond, ça ne désarçonne pas les médecins. Et puis, il y a effectivement des troubles qui sont plus difficiles à classer, à étiqueter, parce qu'ils ne correspondent pas à des mesures de troubles organiques, mais qu'on voit très clairement, et qui occasionnent parfois des convalescences extrêmement longue. Il y a des gens qui vous disent « Mais moi, ça fait 6 semaines que je suis épuisée, que je n'arrive pas à m'en sortir. »
On voyait cette femme qui était en larmes et qui disait « J'étais dynamique, j'y arrive
absolument.
Plus. »
Et ça, c'est vrai que c'est des témoignages qu'on a.
Je parle de personnes qui n'étaient pas hospitalisées. Hein.
C'est oui, absolument. Après, ça, ce genre de truc,
sévères,
une asthénie, mais d'ailleurs, les gens décrivent pendant le Covid, hein, des asthénies.
Une énorme fatigue.
Énorme, ouais. Que j'arrivais pas à lever le petit doigt. Voilà ce que les gens nous disent. Des gens hyper dynamiques. Et donc, là, on voit soit des convalescences trop très prolongée, soit des gens qui, à un moment, vont mieux, puis, off, ils ont de nouveau des symptômes qui ne sont pas faciles à étiqueter, mais qui peuvent être effectivement des troubles musculaires, de l'asthénie, des palpitations.
Est-ce que ce n'est pas ce qu'on voit avec d'autres virus ?
Absolument. Vous avez complètement raison de le souligner. Il y a depuis longtemps, en pathologie infectieuse, des descriptions de ce qu'on a appelé éventuellement des fatigues chroniques, des choses comme ça, qui surviennent après des pathologies virales, et je dois dire qu'ils nous ont toujours énormément désarçonnés. Et alors, on les a attribués à des virus persistants, à tout ce qu'on veut, et finalement, on n'a pas vraiment d'explication physiopathologique.
Mm-hmm. Martin Blachier, sur les choses qu'on a encore appris de l'épidémie et du virus.
Alors, je dirais, je ne suis pas du tout un spécialiste des maladies infectieuses, donc je suis moins légitime pour parler de ça. Je dirais que tout ce qui fait dire que ce virus est très très différent de ce qu'on existe déjà, moi je regarde toujours ça avec un petit peu de recul. Je pense que ce qui est très particulier avec ce virus, c'est qu'il n'y a aucune immunité. Je ferai le parallèle avec...
Pourquoi il n'y a eu aucune immunité ?
C'est-à-dire que c'est un virus nouveau. Donc quand c'est un virus nouveau, il frappe beaucoup de gens et il frappe très fort. Et donc c'est sans doute ça qui fait que des choses qui existent dans d'autres virus, peut-être on les voit plus ici. Il y a une étude qui est... Je fais juste le parallèle avec ce syndrome post-infection qui a été vu chez les enfants. Il y a une équipe française, parisienne d'ailleurs, qui a publié récemment. Ils ont fait une analyse pour voir les pics de ce syndrome dit de Kawasaki. Et ils ont vu qu'il y a eu effectivement un pic après le Covid et qu'il y avait eu un pic après le H1N1. En fait, je pense que c'est quand même des choses qui sont similaires avec des nouveaux virus. Je ne sais pas si c'est spécifique à ce virus-là. Je dis que c'est peut-être lié au fait que ce virus soit nouveau, qui touche beaucoup de monde et qui touche des gens qui n'ont aucune immunité.
Et est-ce qu'on a des informations supplémentaires sur la durée de l'immunité ? C'est vrai que ça, on a aussi un peu tout entendu. Ça dure longtemps, ça dure 3 mois, ça dure 2 mois. Maintenant, ça a commencé il y a longtemps, cette épidémie, notamment en Chine, si on reprend les tout premiers cas. Est-ce qu'on a des informations plus précises sur la durée de l'immunité ?
Alors là, il y a un débat. Il y a des gens qui disent qu'il y a eu une idée qui est sortie il n'y a pas longtemps, comme quoi l'immunité ne durerait que 4 mois. Et c'est des études qui sont faites essentiellement sur la détection des anticorps. Or, on peut avoir une immunité avec des taux d'anticorps circulants qui sont assez faibles. Et là, il y a une étude qui vient de sortir dans Nature qui dit plutôt l'inverse, qui dit que sur d'autres virus, et probablement sur le Covid-19, on a une immunité qui dure assez longtemps, même si on n'arrive pas à la détecter avec des taux d'anticorps. D'accord. Moi, je suis plutôt d'avis de penser qu'il n'y a rien d'exceptionnel sur ce virus en ce qui concerne l'immunité, et jusqu'à preuve du contraire, j'aurais tendance à dire qu'il y a une immunité à peu près comme dans les autres virus. Mais là encore, là, c'est plutôt mon opinion pour le coup.
Et nous revenons maintenant à vos questions. Je fête mon anniversaire demain au restaurant. Est-il dangereux de dîner en salle avec mes proches ? Dois-je annuler ? Comment répondre à cette question ? Vous devez l'avoir souvent, cette question. Des gens qui vous appellent et qui vous posent des questions très concrètes.
Ils sont combien ?
Alors là, je ne peux pas vous poser la question, mais et surtout, quel âge avez-vous, Léo, à Paris ? C'est peut-être ça la question.
Non, ils sont combien ? Est-ce que ça va être en terrasse ? Est-ce qu'ils vont être à l'extérieur ? Tout est différent. Est-ce que les tables, est-ce que vous allez avoir un mètre ? Est-ce que vous allez avoir des distances barrières minimales ? Non, je pense qu'ils peuvent aller en terrasse sans aucune difficulté. Et s'ils sont dans une salle tassée,
c'est pas la bonne idée.
C'est pas bon, mais là, en terrasse, il n'y a aucune raison.
Pourquoi s'étonner ? J'habite une station balnéaire où les gestes barrières sont oubliés depuis le début des vacances. C'est Raymond qui habite dans la Somme.
Non, mais sans doute que dans beaucoup de stations balnéaires, il y a un virus qui circule déjà. Et comme je le dis, on ne le voit pas, puisque ce sont des jeunes qui font la fête, que les jeunes ils sont essentiellement asymptomatiques, que quand ils ont un petit rhume, ils ne vont pas se faire tester. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'endroits où le virus circule tranquillement dans une population asymptomatique. Au bout d'un certain temps, ça va passer dans une population qui quand même se protège.
Et
le jour où ça va passer, j'espère que ça ne passera pas, on verra les gens dans les services, on se rendra compte que ça circulait déjà.
La différence par rapport à la première vague, c'est que justement ces personnes faibles, et parce qu'on vous répétez les uns les autres ce message de prudence.
Mais moi, c'est mon espoir principal en fait. Je pense que justement, à force de l'avoir dit, il y a quand même beaucoup de gens qui se protègent, et donc s'il y a une circulation, elle se fera essentiellement chez les jeunes, et je pense qu'il y a quand même une espèce de barrière qui s'est faite avec ces populations qui se tiennent à l'abri, et je pense que du coup, on n'aura pas cette espèce de phénomène d'embolisation.
Et puis en même temps, on a dit que le virus se transmettait avec les gouttelettes ou même peut-être circulait dans l'air. L'avantage quand même, quand vous êtes au bord de la mer, enfin notamment en Bretagne, il y a toujours un peu de vent et donc le virus, il n'a pas le temps trop de stagner.
Ce qui fait
la contagion dans un lieu contaminé, c'est que dans un lieu confiné, c'est que l'air ne circule pas. Donc vous pouvez très bien respirer l'aérosol, etc.
En gros, à la plage, c'est sans risque.
Franchement, si vous respectez un minimum de mesures barrières, oui, vous avez moins de risques de le choper dans un studio, par exemple, comme ici.
On ne vous demandera pas de mettre un masque à la plage, par exemple.
Comment ?
Aujourd'hui, on ne demande pas de mettre un masque à la plage. Et il y a une raison.
Le port du masque dans les transports publics est obligatoire, mais ce n'est pas respecté. Qui va contrôler que va-t-il se passer? C'est Anna dans la Loire qui pose cette question.
Alors, il y a des contrôles, effectivement, qui ne sont pas plus fréquents que les contrôles habituels pour la vérification des titres de transport. On voit les contrôleurs vérifier en même temps le masque et en même temps le titre de transport. Alors là, je vous parle de visu, dans les transports publics parisiens, c'est plutôt respecté. Francilien, c'est plutôt respecté globalement. Après, c'est vrai que c'est la question sur les longs trajets en train, où on voit que peu à peu, les gens commencent à baisser le masque. Mais je pense que le message qui va être envoyé, enfin qui a été envoyé aujourd'hui, de l'obligation de porter le masque dans les endroits clos, va faire que justement, par capillarité, dans les transports en commun, il va y avoir une nouvelle prise de conscience. Parce que c'est ça qu'essaie de faire le gouvernement, c'est une prise de conscience globale. Parce que qu'est-ce qu'il y a au bout des vacances? Et c'est la question essentielle. D'ailleurs, Jean Castex en a parlé ce matin. Il a bien expliqué qu'il demandait à Jean-Michel Blanquer de travailler sur cette question cruciale. Les parents commençaient à se rassurer. Qui va mettre ses enfants à l'école à la rentrée? Le plus de monde possible, tout le monde en espère, mais il y a une question psychologique très importante pour la rentrée, sanitaire et psychologique.
Et puis c'est vrai qu'il y a un effet, je dirais, collectif, c'est-à-dire quand on sait que le fait que la personne à côté de vous ait un masque et qu'on ait un masque, ça nous protège tous. Au fond, après, il y a une espèce de pression collective. Si une personne arrive dans un magasin, dans un métro, et qu'il ne porte pas de masque alors que tout le monde porte un masque, je pense que ça fait un peu pression.
Le masque chirurgical protège-t-il de la contamination par aérosol?
Alors, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, ça a été étudié en littérature. Et les gens qui ont signé cette tribune ont fait des travaux qui montrent que, justement, le fait d'avoir deux masques, c'est-à-dire la personne qui émet et la personne qui reçoit, il y a une vraie protection. Ce qui, vous avez raison de souligner, que si on se trouve dans une situation dans laquelle vraiment à risque d'aérosolisation, comme par exemple à l'hôpital pour les réanimateurs qui font des intubations, enfin toutes sortes de gestes qui créent des aérosols avec une densité infectieuse considérable, évidemment on ne se contentera pas de masques chirurgicaux.
Pourquoi la deuxième vague n'a-t-elle pas déjà eu lieu alors que le déconfinement a commencé le 11 mai?
Parce que ça met du temps. Pour partir d'un niveau extrêmement bas, en fait, ça double à chaque fois. Mais quand vous partez d'une dimension qui est très, 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 très faible, vous avez un certain temps. Très probablement que la première vague française a commencé, maintenant on est à peu près tous d'accord là-dessus, en décembre-janvier. Et d'ailleurs, très probablement aussi que ça s'est d'abord passé chez les jeunes. C'est pour ça qu'on a très, très peu vu en fait, ce qui s'est passé en janvier-février. Et puis à un moment, c'est passé dans une population qui est moins sociabilisée, puisque c'était suffisamment répandu dans la population moins à risque pour aller vers la population à risque. Et à ce moment-là, la dimension. Donc ça met du temps.
Je tousse, mais c'est la clim, hein, je le précise, que vous me faites les gros yeux. Des personnes testées à Laval lundi dernier n'ont toujours pas leurs résultats ce jeudi. Ce dépistage massif est-il bien organisé? On en parlait tout à l'heure.
Le dépistage massif bien organisé en Mayenne, ils en sont en capacité, ils testent 1200 personnes par jour. 1200 personnes par jour, vous avez 300 000 habitants en Mayenne, on n'est pas rendu.
Ne serait-il pas injuste de confiner les vieux parce que les jeunes font n'importe quoi? Les jeunes font la fête.
Pas avec leurs vieux.
Mais c'est parce qu'on a vu ces images justement de fête de la musique, mais c'était en extérieur, et vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas eu de conséquences. Mais c'est vrai que le gouvernement a été très sensible à ça. C'est-à-dire qu'il y a eu une critique à un moment, on a commencé à dire est-ce qu'on va déconfiner par tranche d'âge? Vous vous souvenez de ce débat? Il y a eu une réaction de certains en disant mais c'est pas possible, on ne peut pas séparer les générations de cette façon-là. Une réaction très vive. Ouais. Donc justement, le respect de l'ensemble des générations va être très pris en compte par le gouvernement, parce qu'ils savent que c'est une question très, très, très sensible.
Et c'est d'ailleurs une question qui va au-delà des rassemblements et des fêtes. Hein. C'est effectivement, les jeunes payent un lourd tribut en termes économiques. Et effectivement, ils payent plus cher que les gens âgés qu'on protège. Donc, évidemment que le gouvernement est confronté à cette espèce de choix extrêmement difficile. Après, c'est effectivement à eux de le résoudre en fonction de l'acceptabilité de certaines mesures.
Non, puis moi j'ai noté que les jeunes, quand ils ont des personnes âgées qui vont fréquenter, ils sont extrêmement sensibles. Ouais, ils font très attention aux personnes âgées. Ils ont envie de faire la fête, on les comprend. Mais c'est vrai que dès qu'ils ont à aller voir quelqu'un chez eux, ils font gaffe, ils demandent à se faire tester, c'est vrai.
Y a-t-il vraiment une accélération ou c'est tout simplement parce que l'on fait plus de tests?
Moi, je pense qu'il y a une accélération. Je comprends
ça, c'était
pas
ce que disait Donald Trump. Hein.
Non, mais, non, mais
les
d'accord.
Les États-Unis disaient on a des chiffres qui augmentent parce qu'on fait plus de tests.
En un mois, les appels SOS médecins x 5.
Il y a tous les indicateurs.
Dans ce cas-là, je ne peux pas expliquer autrement. Et puis, vous avez un taux de positivité des tests qui reste stable malgré le fait qu'on fasse de plus en plus de tests. Donc, il y a de plus en plus de cas. Donc, non, d'accord. Je pense vraiment qu'il y a une accélération.
Voilà, c'est d'ailleurs comme ça qu'ont répondu les conseillers à Trump en disant mais si c'était ça, à ce moment-là, le taux de positivité parmi les tests diminuerait. Bien sûr.
Les tests salivaires sont-ils fiables et répandus ? Alors,
on a déjà donc effectivement expliqué que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. Pour l'instant, on n'a peut-être pas le dernier modèle le plus sensible.
La visière en plastique est-elle aussi efficace que le masque ?
Personne ne sait.
Ah bon ?
Je ne sais pas qui a des données là-dessus.
C'est vrai qu'on voit les deux. Hein. Il y a des gens qui sont adeptes de la visière en plastique.
Oui, bon. Mais moi, je peux pas. On peut pas travailler avec des visières en plastique. On peut pas regarder les gens. C'est extrêmement dur. Si vous avez quelqu'un pour parler en face, ça va très bien. Mais si vous devez écrire ou regarder l'ordinateur avec ça, alors là, c'est impossible.
Donc, vous êtes adepte du masque.
Du masque, oui.
Allez. Les régions françaises les plus touchées par l'épidémie au printemps dernier sont-elles davantage immunisées ?
Oui. Ah oui, forcément, ouais. Absolument. Mais par contre, c'est pas à la région près. Hein. C'est vraiment des endroits plus petits, en fait.
Pourquoi ne pas exiger l'installation de Stop Covid à l'entrée des spectacles, matchs, etc. C'est une idée de Jean-Paul Hamon.
Voilà, exactement.
On va voir si le gouvernement embraye. Un reconfinement généralisé est-il envisageable ? Là, pour le coup, le message a été clairement dit de la part du ministre de la Santé.
Oui, un reconfinement ciblé est possible, mais pas de reconfinement général en même temps. Quand on regarde l'interview dans la presse quotidienne régionale d'Emmanuel Macron la semaine dernière, il parlait de reconfinement et il n'y avait pas d'adjectif derrière, si ma mémoire est bonne. Et on s'est demandé si ce n'était pas un premier signal, justement, envoyé par le président de la République. Mais ça paraît très difficile à envisager pour les raisons économiques que l'on sait.
En sait-on plus maintenant sur la production d'anticorps et la durée pendant laquelle on est immunisé après avoir été infecté ? Vous nous disiez tout à l'heure qu'on avait encore des doutes.
L'immunité n'est pas forcément médiée par des anticorps. Il peut y avoir une immunité mémoire cellulaire, c'est ce que disent certains articles et je pense que c'est intéressant.
Est-il envisageable de limiter à nouveau les déplacements à 100 km du domicile ? On n'en est pas encore là. On est d'accord ? Allez, peut-être une dernière question. La climatisation favorise-t-elle la propagation du virus ? J'espère que non, parce que là, elle est à fond aujourd'hui. Est-ce qu'on a des informations là-dessus ?
Ce qu'on sait, c'est qu'il vaut mieux pas un flux d'air va favoriser le transport du virus, d'accord. Mais les climatisations par le haut, je pense que...
Bon, je ne connais pas le système de climatisation, mais on verra. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h40. Demain, vous retrouvez Axel Dautarlet pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée à vous.